Oyez, oyez, voici Myriam Première.
Prosternez-vous devant Myriam Première. Bonjour Myriam.
Prosternez-vous quand même pas trop bas, vous allez vous retrouver à la même hauteur que moi.
Hey, juste pour le fun Myriam, parce qu'on demandait aux auditeurs tantôt, vous trouvez 10 000 piastres dans une enveloppe avec les informations du propriétaire de l'enveloppe en question. Vous le gardez, vous le redonnez. Il y avait tellement de réponses que j'ai pas été capable de faire le score là, au dernier calcul. Là, il y avait un peu plus de monde qui le gardait que de gens qui le redonnent. Mais
ah ouais?
Tu le gardes ou tu le redonnes?
Ah, je le redonne, sans la moindre hésitation.
Parce que t'es plein aux os.
Non, vous, probablement. Probablement. Mais c'est sûr que je le redonne.
Pourquoi ça... les remords? Parce que les
non,
principes...
Non, parce que je suis quelqu'un d'honnête, de foncièrement honnête. L'autre, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps dans une petite boutique. Je trouve un 100 piastres à terre à côté du comptoir. Je vais redonner au caissier.
Mais là, c'est 10 000. Là.
Oui, mais tu sais, 100 piastres, là, il n'y a pas de nom dessus, il n'y a rien. Je vais redonner au caissier. J'ai deux choses. Une, ou bien c'est la caisse qui l'a échappé, puis ils balanceront pas à soir, ils vont être dans la chenoute.
Ouais.
Ou bien c'est un client qui l'a échappé, il va peut-être revenir en disant « est-ce que j'aurais oublié? » Puis
ça, c'est la Myriam que je connais, ça.
Alors donc, les gens, est-ce qu'ils sont plus Myriam ou Paul Raphaël?
Ben, il y avait quasiment plus de Paul Raphaël, sans blague. Mais j'ai pas pu tout compter, ça fait que je donnerai pas la statistique de nos auditeurs, mais il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis en début de carrière. Myriam a eu le temps d'accumuler un pactole. Moi, j'ai même pas moyen de me payer un char.
Mais j'ai toujours cru que tôt ou tard, l'honnêteté était payante. J'ai toujours cru que... ma mère parlait de la justice immanente. C'est-à-dire qu'un jour, quelque chose t'est rendu. Que ce que tu fais de bien à quelqu'un, un jour, il y a quelqu'un qui va te faire quelque chose de bien. Tu sais, le donner au suivant.
Ouais.
Bon, c'est un peu ça.
Mais il y a des gens qui disent, moi, je leur donne le 10 000, mais j'aimerais ça qu'ils me donnent un petit 1 000.
Ouais, honnêtement, là, ça m'est arrivé dans le parc de Yellowstone. Je m'en vais dans une boutique dans le milieu du parc de Yellowstone. Je repars, je m'en vais voir un geyser. Je m'aperçois que j'ai pas mon portefeuille avec moi. Je retourne sur mes pas, je m'en vais dans la boutique. Ils l'ont pas. Je fais le tour et j'ai la mauvaise habitude de déposer mon portefeuille dans le vide-poche de la portière.
OK.
Donc, je me doute bien que j'ai dû l'échapper à terre.
Oh,
à
merde.
Côté de la voiture. Et il mouillait à boire debout.
Ah, merde.
Je me dis, bon, ben regarde, je vais aller faire un tour au lodge qui est tout près. D'un coup, quelqu'un aurait trouvé le portefeuille et l'aurait ramené. Écoute, le portefeuille était là.
Ah, et là, t'es
avec
rendu, là, que
toutes
les
cartes de crédit dedans, même pas mouillées. Donc, je l'ai échappé, puis il y a quelqu'un qui l'a ramassé tout de suite.
Ah, ben ça c'est la...
C'est pour ça que je te dis, soyons donc honnêtes. Un jour, ce sera votre tour.
Hey, on reste dans le positif, Myriam, parce que tu voulais m'expliquer aujourd'hui en quoi, à certains moments, la radio, faire de la radio, ça peut être gratifiant. J'en ai eu un pas pire exemple depuis une couple de jours. On reçoit beaucoup de beaux messages, beaucoup de beaux témoignages de gens qui écoutent Deux Hommes en Onde et qui sont bien tristes que l'émission se termine.
Mais tu sais, des fois, tu dis, bon, ben, je chiale, puis ça donne rien, je chiale. Ce matin, je suis sur le boulevard Pierre-Bertrand dans un commerce et il y a une dame qui vient me voir en disant, Madame Segal, merci beaucoup. Je dis, merci de quoi? Je la connais pas, etc.
Ben ouais.
Elle dit, la ville a décidé de déneiger la piste cyclable au milieu de Pierre-Bertrand cette année.
Qui est un dossier que tu avais porté, puis que je t'entends parler de ça depuis une couple d'années. Là.
Effectivement. Boulevard Pierre-Bertrand, dans la section entre Bouvier et le Canac, je pense à peu près, la piste cyclable, c'est en même temps le trottoir.
Exact.
Il n'y a pas de trottoir sur le bord de ce boulevard-là. Si bien que l'hiver, j'ai eu la mésaventure, une couple de fois, de devoir aller marcher dans ce coin-là. Pour me rendre à un commerce. Tout ce que je peux faire, je le fais à pied. Tu sais, tout ce qui est faisable à pied, je le fais à pied. Et c'est dangereux, mais ça n'a pas de bon sens. Les piétons, l'hiver, sur Pierre-Bertrand, sont obligés de marcher sur la chaussée, d'escalader le banc de neige pour aller aux abribus. L'an passé, il y a un chauffeur d'autobus qui n'a pas voulu me débarquer à l'abribus, parce que c'était trop dangereux que je glisse en dessous des roues.
Ben
il m'a débarqué dans une entrée de commerce un peu plus loin. Donc, c'est un endroit épouvantablement dangereux, mal pensé, mal foutu. Et en plus, la ville ne déneige pas la piste cyclable qui est en même temps le trottoir qui est sur le milieu du terre-plein. Or, il semble, d'après cette dame-là, que la ville a commencé à le déneiger. Puis elle, elle y voyait un signe qu'à force de chialer, on avait peut-être obtenu quelque chose. J'ai appelé la ville, ils n'ont pas eu encore les informations, là, il y a des réunions. Ils n'ont pas encore eu les informations pouvant me confirmer la chose. Mais effectivement, il était à peu près temps qu'ils le fassent. Ça ne règle pas le problème de l'accès aux abribus dans ce coin-là.
C'est ça qui est bizarre. Il y a des autobus qui passent là. Logiquement, il devrait y avoir des trottoirs.
Non. Il y a plein de places. Écoute, moi, je rêve de m'asseoir un jour avec celui qui planifie les trottoirs à Québec. Là.
Non, mais même
j'ai
à Saguenay,
des histoires à y raconter.
Non, mais c'est ça. Même à Saguenay, je sais que c'est des dossiers, le déneigement des trottoirs, là. Il y avait quelque part une personne qui était attitrée à répondre aux questions de Myriam Segal à l'hôtel de ville de Chicoutimi.
À Saguenay, c'est parce qu'ils ont mis des poteaux dans le milieu des trottoirs. Ah, il y a oui. Des poteaux dans le milieu des trottoirs. Des poteaux électriques.
Okay.
Et le petit gars qui passe la déneigeuse, la petite déneigeuse à trottoir, là,
ouais.
Lui, il débarque pas de son petit tracteur. Ça fait que lui, il arrive où le poteau, il contourne le poteau, ça fait qu'il y a un immense banc de neige qui se fait au milieu du trottoir. C'était ça le problème.
Ouais.
À Québec, il y a des bouts de trottoir qui sont pas raboutés les uns aux autres. Par exemple, tu descends l'escalier Joffre ici. Mmh. Derrière oui, Saint-Sacrement, il oui. y a un escalier qui descend vers le boulevard Charest.
Oui.
Si tu fais à peu près 200 pieds vers la droite, le trottoir arrête. Si tu fais 200 pieds vers la gauche, le trottoir arrête.
Ouais.
Si bien que tu es obligé, si tu veux rester sur un trottoir, de traverser le boulevard Charest à un endroit où il n'y a pas de passage piétonnier.
Non. Alors, c'est le pire endroit en ville.
C'est complètement délirant.
J'ai un ami qui a travaillé dans ce coin-là un bout de temps. Ça a duré, je pense, 2 mois. En fait, non, je peux pas. C'est impossible. Il y a rien. Tu peux pas traverser, tu peux pas arriver là. Il y a quelqu'un qui n'avait pas d'auto, là. Si tu n'as pas d'auto, tu peux pas travailler là. Parce que tu peux pas t'y rendre.
Donc, ben mal fait.
C'est mal fait.
C'est un des seuls liens entre Saint-Sacrement puis la Pente Douce. Là, c'est la seule façon que tu peux passer de chemin Sainte-Foy à Charest entre Saint-Sacrement puis la Pente Douce.
François, tu le descends Saint-Sacrement des fois, tu stationnes fois en bas. Bon, tu descends la rue Saint-Sacrement, t'es obligé de marcher du côté est parce qu'il y a pas de trottoir du côté ouest. Arrivé en bas, t'es obligé de traverser l'avenue Saint-Sacrement parce que si tu veux traverser le boulevard Charest, t'as pas de lumière pour aller tout droit. Faut que tu traverses. Une première fois, puis ensuite, tu as 20 secondes pour traverser les 8 voies du boulevard Charest à cet endroit-là.
Plus la bretelle.
Puis une fois que tu as passé, là, il faut que tu retraverses Saint-Sacrement parce que le trottoir arrête à peu près à Céramix. Arrête. Fait que si tu veux rester sur le trottoir, tu dois retraverser Saint-Sacrement à un endroit où tu n'as pas de...
C'est un parcours à obstacles, ça.
Mais ceci dit, s'ils ont déneigé, si au moins ils décident de déneiger à piste cyclable, c'est pas tant pour les vélos que pour les piétons qu'il faut le faire. Puis il va falloir que quelqu'un accepte à un moment donné que l'hiver, il faut prendre une petite pelle puis pelleter.
Mais il n'y a pas justement un projet pilote de piste cyclable blanche, là, je ne sais plus comment appeler ça, piste cyclable hivernale.
Sur Permarket, ils vont entretenir la piste cyclable.
Mais Pierre Bertrand, c'est pas ça?
Pierre Bertrand, c'est ça que j'essaye de vérifier, mais d'après une dame qui marche fréquemment dans ce coin-là, elle dit « Cette année, la ville a décidé de passer. » Elle dit « Ça me permet de me rendre à Bouvier sans me faire tuer. »
C'est complètement fou.
Moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que on nous dit, là, avec toute l'affaire du tramway, là, le projet de tramway, on nous dit le transport en commun, c'est l'avenir. Mais là, je me rends compte qu'il y a plein d'endroits à Québec. Si tu prends l'autobus, c'est dangereux là, à cause de l'absence de trottoir.
Mais c'est le nord-sud. Écoute, faire débarquer sur le boulevard Pierre-Bertrand et devoir marcher ne fût-ce que 500 pieds sur le bord de ce boulevard-là, là, c'est mettre ta vie en péril. C'est une tentative de suicide. Ça devrait être répertorié et non couvert par tes assurances. Là.
C'est incroyable.
Alors, si au moins il déneige la piste cyclable qui est dans le milieu, ben tu traverses le boulevard et t'en vas marcher sur la piste cyclable. Au grand vent, c'est pas l'idéal. Ce serait mieux d'avoir des trottoirs, mais c'est toujours ça de prix.
Aux gens de la ville qui nous écoutent, invitez donc Myriam à s'asseoir avec vous pour planifier un peu les déneigements. Non, mais je suis sérieux parce qu'il y a deux grands organismes qui devraient inviter Myriam à aller s'asseoir avec eux. Il y a à la ville pour le déneigement, mais il y a
aussi... comme piétons.
Des trottoirs. Mais il y a aussi le Conseil du Trésor et les alliances syndicales lorsqu'ils négocient pour les nouvelles conventions collectives dans la fonction publique. Comme grande syndicaliste que tu as été.
Que je suis encore.
Ah oui?
Non, je paye-tu encore des cotisations? Je pense que je suis en
train. Parce que je t'annonce que chez Cogeco, non.
Non, mais au Cégep. Je pense que j'en paye encore. Parce qu'ils m'ont rappelé, j'avais pris ma retraite du cégep, puis ils m'ont rappelé au travail.
Oui, mais t'as déjà été représentante syndicale.
Absolument. C'est ça, n'importe ça.
Hey, j'aurais pas voulu être le patron qui négocie avec toi. Oh, que je me serais senti petit dans mes chats.
Non, j'étais pas CSN. C'est vrai, j'étais FTQ dans ce temps-là. Après ça, je suis devenue, j'ai payé mes cotisations. L'essentiel des cotisations syndicales que j'ai payées dans ma vie, ça a été la CSN.
Mais donc, quand tu regardes les négociations dans fonction publique,
tu
dois pas être surprise que tantôt, quand on en parlait, il y a des auditeurs qui nous écrivaient. Quand on écoute notre syndicat, ils font juste nous parler d'argent, argent, argent. Mais quand nous autres, on parle d'un corridor, c'est climat de travail, conditions de travail, l'ambiance, tout ça, les avantages sociaux. Mais c'est parce que ce qui est important pour le syndicat, c'est le salaire. Parce que le salaire, la cotisation avant en fonction du salaire.
C'est un peu ça le problème. C'est une partie du problème. Une partie du problème, c'est que les syndicats sont des entreprises qui tentent à grandir.
Ouais.
Or, ils touchent 2 % de toute la masse salariale qu'ils négocient. Alors, c'est sûr que si la masse salariale n'augmente pas, mais que les conditions de travail s'améliorent, les syndicats ne peuvent pas grandir. Alors, ils vont toujours ramener sur le plan salarial des revendications qui, pour certaines, seraient bien plus importantes sur le plan, par exemple, de la charge de travail. Moi, j'ai des collègues qui me disent, regarde, s'ils baissaient 2 % ce qu'on appelle la CI, la charge individuelle de travail, là, j'accepterais qu'ils gèlent mon salaire.
Oui, c'est ça.
Donne-moi le temps d'enseigner comme du monde.
Exact.
Donne-moi du temps. Plutôt que de... Mais les syndicats vont chercher, puis la discussion se fait toujours. Regarde, hier, là, le gouvernement a annoncé que serait 7 % sur, je ne sais plus...
5 ans.
En bas du taux d'inflation.
Anticipé, exactement, c'est ça. Mais là, en même temps, moi, je regardais ça un peu en rigolant, parce que... C'est tout le temps comme ça avec quand le Conseil du Trésor négocie avec les centrales syndicales. C'est que tu sais que ça va durer tellement longtemps que quand l'entente va être entérinée, il va falloir qu'ils recommencent à négocier la prochaine.
Exact.
Et donc, on n'a pas le choix de comment. L'offre, là,
job à temps plein d'être négociateur pour le gouvernement et c'est une job à temps plein d'être négociateur pour les centrales syndicales dans la fonction publique.
Voilà.
Ce sont des gens qui se sont créés un empire. Et plus ça va lentement, plus ils font de cash. Plus. Tu sais, un négociateur, là, ça n'a jamais intérêt à aller vite. C'est payé à l'heure. Arrête de les payer à l'heure. Moi, je diminuerais leur tarif horaire à mesure que ça avance.
Ben oui, parce que la première ronde de négociation, ce qu'on a appris hier, là, l'offre en dessous de l'inflation, puis cette affaire-là. De part et d'autre, parce que Québec, quand ils regardent ça, ils disent les syndicats, eux autres, c'est 28 % d'augmentation qui demandent, ça n'a pas de sens. La vérité, c'est que cette ronde de négociation-là est absolument inutile. C'est une perte de temps complète, 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 qui mène à absolument rien.
Le gouvernement ne peut pas offrir moins que le taux d'inflation, alors qu'il vient de décider dans une loi qu'Hydro-Québec pourrait augmenter du taux d'inflation ses tarifs. Il peut pas parler d'un côté de la bouche quand c'est ses revenus qui comptent, puis parler de l'autre côté de la bouche quand il faut payer ses employés. Ça marche pas, ça.
Mais pourquoi tu parlais tantôt là, des conditions, puis donnez-moi les moyens d'enseigner.
Oui.
Pourquoi le gouvernement va pas à contre-courant, puis il propose pas ça? Les syndicats diraient non, mais les syndiqués, eux autres, diraient peut-être
que... Le gouvernement n'a pas le droit de parler directement à ses employés, hein? Le gouvernement, dans une négociation collective, un employeur ne peut pas parler au syndiqué. Il doit parler au syndicat.
Mais il peut proposer le syndicat. Au syndicat.
Oui, mais là, on négocie pas sur la place publique. Combien de fois t'as entendu ça? On négociera pas sur la place publique. Faites-le, tabarnouche. Négocier sur la place publique, ça concerne l'argent du public qui va être versé à des gens qui travaillent pour le public. Oui, ça concerne le public. Moi, je mettrais des webcams sur la table de négociation. Puis je filmerais ça en temps réel. On les verrait niaiser puis voir leur salaire de 500$ de l'heure s'accumuler. On les verrait faire. Mettez-leur des webcams puis filmez ça en direct. Permettez aux syndiqués de voir leur syndicat à l'œuvre. Permettez aux contribuables de voir leur gouvernement à l'œuvre. Négociez sa place publique, c'est public ce que vous faites là. Négociez-le. Rien qu'en changeant cette dynamique-là, là, je suis persuadé que ça changerait des choses. Je suis persuadé qu'on avancerait un petit peu plus vite dans l'espèce de comédie qui se joue chaque année. Je t'offre moins que l'inflation. On va finir par régler à l'inflation. Puis toutes les choses importantes qui sont des négociations soi-disant locales, ben là, ils passent inaperçus. Puis les gens sont malheureux dans leur job parce qu'on n'a pas changé ce qui leur tenait le plus à cœur. Parce qu'on a juste parlé de cash.
C'est drôle que tu dises ça puis que tu parles de transparence parce que as-tu vu passer cette semaine la vidéo de Catherine Dorion sur les interpellations des ministres? Et puis elle a fait une vidéo où, puis on en parlait hier, là, elle interpelle la ministre de la Culture sur les subventions à l'information. Puis la question, grosso modo, c'est pourquoi vous voulez aussi subventionner les chroniqueurs et l'opinion alors qu'il faut subventionner strictement l'information? Ben, bref, ça, c'est la question. Mais elle fait pas ça pour tenir le débat. Elle fait ça pour démontrer à quel point, dans une interpellation, il se passe rien. C'est super normé, ça dure 2 heures, elle a 5 minutes pour poser la question, la ministre doit répondre en 10 minutes. Et là, la ministre Roy, mais là, c'est elle, mais
ça pourrait être n'importe quel
autre ministre. Elle commence par remercier. Je remercie la députée de Taschereau de me poser la question, car moi, j'ai été journaliste. Puis là, l'énumération, quand ATV, ATQS Québec, ATQS Montréal. Et là, vous savez, dans une salle de nouvelles, il y a le producteur, il y a le recherchiste, il y a la salle des nouvelles.
Elle répond pas.
Elle répond. 10 minutes de vide. Alors, ouais. Là, elle a mis ça sur les réseaux sociaux, puis c'est comme si pour la première fois, les gens faisaient comme, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe.
Mais moi, j'ai souvent regardé l'Assemblée nationale, tu sais, quand tu fais un peu d'insomnie, là, t'écoutes ça le soir, là. T'écoutes ça le soir. Puis, bon, je vous garantis que l'insomnie dure pas, là.
Ouais.
et c'est extraordinaire comme, au lieu de se nommer par leur nom, député de Taschereau, député de ceci, député de cela, t'as même pas le parti. Première opposition, deuxième opposition, troisième opposition. Pouvez-vous parler pour le monde? Québec solidaire, PQ, ah ouais, ils ont des noms, là. Pouvez-vous vous donner des titres pour le vrai monde au lieu de parler pour vous-même selon des vieux critères un peu bizarres? Mais dans les négociations, moi, je pense qu'il va falloir casser le jouet. Il faut casser le système.
Ouais, ouais.
Personne, ni du côté syndical, ni du côté gouvernemental, n'a intérêt à ce que ça aille vite, n'a intérêt à ce que ça aille bien. Et là, ce que ça va créer, là, ce à quoi on va assister au cours de la prochaine année, c'est qu'on va commencer à mettre des signes de mauvaise humeur dans le système. Probablement que à la fin de la prochaine session, on va commencer à boycotter sorties scolaires dans les écoles. Là, les organismes sans but lucratif vont pleurer. Sorties scolaires, c'est une peine, notre beurre. Les enfants vont être plus malheureux. Les professeurs seront pas vraiment heureux. Ils vont être obligés de faire semblant d'être de bien mauvaise humeur. Puis à l'automne prochain, là, ils vont faire des petites manifestations, puis des petites journées de grève sporadiques. Puis là, quand le gouvernement aura récupéré un 2% avec les grèves sporadiques, il va vous dire, ben oui, je vais vous donner 2%.
T'sais, pis, ah oui, c'est ça.
La comédie est déjà tellement jouée souvent. On peut-tu casser le système? Est-ce que le gouvernement pourrait dire à ses négociateurs, regarde les amis, là, vous êtes payés 500$ de l'heure la première semaine de négociation. Vous serez payé 400 la deuxième, 300 la deuxième. Puis vous allez diminuer jusqu'à zéro.
Ça va aller vite.
Ben... Puis est-ce que les syndicats pourraient faire quelque chose aussi pour accélérer les choses? Parce qu'eux autres aussi, c'est un empire qui fait vivre ses propres négociateurs à temps plein. Parce que là, ils ne veulent pas les perdre.
Là, ah ouais, c'est
là, on
ça.
Fait durer le plaisir, on fait durer la chose, on fait des consultations.
Oui, des tables de consultation, des tables de concertation et des forums.
Puis ça finit toujours de la même manière. Quand on est sur le bord d'une grève ou d'une loi spéciale, en une nuit, ils règlent tout ce qui n'était pas réglable en 3 mois. Ou en 6 mois ou en 1 an. Je te dis, il faut casser le système. Puis, je pense qu'une des premières choses, là, c'est de les obliger à négocier en public.
Ouais. Moi, j'écouterais ça.
Ça, c'est pas fou.
On va vous regarder niaiser.
J'écouterais Myriam pendant des heures. Moi, je sais pas toi, François, là, mais moi, j'en prendrais là, comme ça à l'infini.
Essaye d'imaginer Infoman. Juste Infoman avec une séance de négociation qui est diffusée.
Myriam, en fin de semaine, qu'est-ce que tu as pour nous?
Daniel Boudreau vient faire son tour le dimanche pour répondre à vos questions sur les autos, mais peut-être aussi nous suggérer des questions, des petits cadeaux pour amateurs de chars.
Oh, OK.
Vroom, 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 vroom. On va jaser de la charte des voyageurs. Elle entre en fonction dimanche également. Et les courtiers d'assurance vont être obligés d'être des vrais courtiers. Yeah! Moi, je me suis fait avoir demain.
Ah oui?
À un moment donné, je me suis aperçu que la firme de courtage d'assurance sur lequel je comptais pour négocier mes assurances. Moi, j'ai eu ça, faire 3, 4, 5 téléphones.
Ouais,
bon.
Ouais, ouais.
En réalité, elle me refilait tout le temps à la même compagnie qui, comme par hasard, avait des actions dans le
groupe. Tiens. Garde-toi des munitions pour en fin de semaine, mais ça donne le goût d'écouter à partir de 7 heures demain matin que Québec se lève. Myriam Segal, merci.